RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis, actualité chargée hein, ce matin, évidemment au lendemain des résultats des élections européennes et au lendemain de l'annonce du président Emmanuel Macron de la dissolution du Palais Bourbon de l'Assemblée nationale. Alors, on a parlé de la fin de vie. En fait, c'était lié évidemment au projet de loi fin de vie, mais qui est caduque du fait de la dissolution. Et je vous propose jusqu'à 11h de faire peut-être un petit pas de côté et d'évoquer ce qu'on appelle la pastorale de la santé. Vous savez très bien que l'Église, comme tout ce qui concerne l'homme, s'intéresse depuis longtemps à la santé. Alors, on va faire focus sur cette fameuse pastorale. À quoi elle sert? Dans quel cadre il faut se mettre en lien avec la pastorale de la santé, quels sont les objectifs? On va voir ça avec nos invités jusqu'à 11h. Vous êtes toujours les bienvenus en direct avec vos témoignages. Vous, est-ce que vous avez déjà été en lien avec une pastorale de la santé? Dans quel objectif? Est-ce que peut-être vous faites partie d'une pastorale de la santé? Venez témoigner au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et pour nous accompagner jusqu'à 11h, deux invités que je vous présente tout de suite. Je commence avec vous, Aude Momal, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Vous êtes délégué de l'archevêque pour la pastorale de la santé du diocèse de Paris. Avec nous également Jean-Pascal Choury, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue à vous et merci à l'équipe de Nice qui vous accueille en studio, délégué diocésain pour la pastorale de la santé et du handicap du diocèse de Nice. On va y aller tout de suite, hein, Jean-Pascal Choury. Qu'est-ce que c'est une pastorale de la santé?
Pastorale de santé et du handicap, c'est la présence de l'Église auprès de patients qui sont hospitalisés, mais aussi patients qui sont à domicile ou dans des maisons de retraite. C'est ce qui s'appelle le service évangélique des malades, le SEM. Et puis pour ce qui me concerne, c'est aussi la présence au monde du handicap.
En France, comment ça fonctionne au niveau de l'Église catholique française? Est-ce qu'il y a plusieurs délégations un peu partout en France de ces pastorales de la santé?
Je pense que sur chaque diocèse, oui. L'évêque nomme un responsable, délégué épiscopal ou délégué diocésain de la pastorale de santé. Et les gros départements, les gros diocèses ont souvent plusieurs personnes qui chapeautent chacune des réalités. Je vois sur Marseille, par exemple, il y a l'ADDPS, délégué pastoral de santé globale, mais il y a aussi une personne qui s'occupe uniquement de la pastorale de santé hospitalière. L'une qui s'occupe de la pastorale du service évangélique des malades et une autre qui peut s'occuper de la pastorale du handicap.
Alors, on l'a dit, vous l'avez dit plutôt, la pastorale de la santé, c'est vraiment une présence d'église auprès des personnes touchées donc par la maladie, le grand âge, la santé mentale, voire le handicap également. Aude Momal, c'est aussi une présence qui permet de faire le lien entre tous les acteurs concernés par cette maladie.
Oui, je vois sur monsieur l'a bien dit, c'est-à-dire que quand on est un diocèse d'un peu plus important, on a plusieurs personnes et donc qui s'occupent de cette pastorale de la santé. C'est le lien entre les malades, leurs familles, c'est aussi les soignants et c'est aussi l'administration, notamment en hôpital. Je pense que c'est pareil dans tous les diocèses où cela est possible. Nous maintenons les relations avec l'institution hospitalière, les directeurs d'hôpitaux et toute l'équipe soignante. Voilà.
Voilà, ça c'est vraiment la pastorale de la santé qui favorise aussi la rencontre. C'est ce que j'entends, Jean-Pascal Choury, la rencontre, l'écoute. Et aussi le ressourcement des personnels des soignants, ça rejoint, je ne sais pas si vous avez pu écouter la première partie de cette émission, mais ça rejoint aussi l'écoute qu'il doit y avoir autour de certains grands sujets de société.
Bon, ça rejoint surtout l'écoute du patient dans sa souffrance, dans le questionnement qu'il peut avoir face à la maladie, parce que une maladie un peu impactante pose des questions. Ces questions, on les appelle des questions spirituelles. Donc, la réponse peut être religieuse, mais chaque être humain face à la maladie, est confronté à une remise en cause de sa vie. Et à partir du moment où cette remise en cause est effective, on a besoin, ils ont besoin, ces patients, de personnes qui sont capables de les écouter, de prendre le temps. Et parfois, c'est pas obligatoirement les familles qui sont le plus à même. Les soignants auraient tout à fait la capacité, mais souvent, ils n'ont pas le temps nécessaire à ce temps d'écoute. Et donc, ils sont bien contents de trouver des acteurs de la pastorale de santé, que ce soit des aumôniers ou des bénévoles, pour les accompagner dans cette souffrance spirituelle, dans ce questionnement spirituel. Et c'est un peu la même chose aujourd'hui aussi au niveau des soignants, parce qu'il y a une crise que tout le monde connaît de l'hôpital et du monde de la santé. Et beaucoup ont besoin de dire la situation dans laquelle ils sont et qui est problématique pour un certain nombre.
Est-ce qu'on est appelé à faire partie d'une pastorale de la santé, d'après vous, Aude Maumal, ou alors c'est un choix ?
On est appelé. En tout cas, moi, je l'ai été. C'est-à-dire que, excusez-moi, en relation avec un des évêques de Paris, il m'a appelé pour prendre cette mission. C'est à la fois un poste et une mission. Et je me suis engagée parce que lui m'a dit oui, il me semble que avec tel objectif, il me semble que c'est important que tu viennes pour aider, pour être aux côtés de toutes ces personnes qui sont en hôpital ou visite à domicile. Et chaque année, nous envoyons en mission les personnes qui sont appelées justement à prendre une responsabilité, que ce soit de bénévole, de visiteur ou de responsable en aumônerie. Oui, c'est un appel.
C'est un appel.
Ouais. Et ce qui suppose un discernement d'ailleurs par derrière, c'est-à-dire se mettre en présence du Christ et se dire, est-ce que c'est vraiment... Voilà, à quoi m'appelles-tu ? En quoi ma présence est présence du Christ auprès des personnes malades, des soignants et de leur famille ? Oui, c'est un appel.
Jean-Pascal Chaury, vous avez été appelé également ?
Nous sommes tous appelés. Alors parfois, il y a un certain nombre d'aumôniers qui sentent le désir d'aller auprès des malades. Et donc, l'appel, il peut venir soit de l'Église, évêque, prêtre, curé, etc., soit de la part de soi-même qui sentons l'envie d'aller auprès des malades. Par contre, une fois que cet appel a eu lieu, individuel ou par quelqu'un d'autre, c'est l'envoi en mission qui est important. Et ce que disait Aude tout à l'heure est important, c'est-à-dire que on doit vérifier quand même que les compétences, l'envie n'est pas suffisante,
oui.
Il faut des compétences, c'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir une formation. Et puis, lorsqu'on a vérifié un peu, on a discerné, comme elle le disait, après, nous recevons une lettre de mission, c'est-à-dire un envoi de l'Église. Et puis, dans la mission, en général, il y a un troisième lieu qui est « nous devons rendre compte ». C'est-à-dire qu'une fois que nous sommes envoyés en mission, il faut faire un retour de cette mission auprès des différents responsables, que ce soit ecclésiaux, mais c'est un peu la même chose au niveau de l'hôpital, au niveau de nos responsables dans le service public hospitalier dans lequel nous sommes.
On vous emmène dans les coulisses d'une pastorale de la santé ce matin dans Je pense. Donc j'agis avec nos deux invités, Aude Maumal et Jean-Pascal Chaury. Vous avez bien sûr la parole pour réagir et témoigner au 04 72 38 20 23. Si vous avez déjà été en lien avec une pastorale de la santé, dites-nous pourquoi, quel était l'objectif et si ça a fonctionné, si ça a été utile. Et puis si, comme Aude et Jean-Pascal, vous faites partie d'une pastorale de la santé, venez témoigner également. On vous attend et on vous accueille à l'antenne. On a Yveline justement qui nous a rejoint. Bonjour Yveline.
Bonjour.
On vous écoute, allez-y.
Voilà, j'ai hélas fait l'expérience pendant 22 jours et 23 nuits d'être dans une clinique pour accompagner mon mari en fin de vie.
Oui.
Pendant tout ce temps-là, je n'ai jamais vu passer quelqu'un d'une pastorale. Alors moi, ma question est de savoir, est-ce que vous avez accès uniquement dans les hôpitaux publics et que vous n'avez pas accès dans les cliniques ?
C'est une très bonne question, Evelyne, et je vous remercie beaucoup de l'avoir posée ce matin. Jean-Pascal Chaury, je me tourne vers vous. Je trouve ça intéressant et ça nous permet d'aborder beaucoup plus le fonctionnement et comment justement vous allez vous aussi vous déplacer parfois dans certains lieux, certains établissements, hôpital public, clinique. Qu'est-ce que vous répondez à Evelyne ?
Les hôpitaux publics sont quand même souvent dans l'obligation d'avoir un service d'aumônerie. Le service d'aumônerie est normalement, depuis la loi de 1905, un service intégré à l'hôpital, c'est-à-dire que les aumôniers sont des aumôniers qui sont salariés de l'hôpital comme un service de psychologue, de médecin, d'aide-soignant, etc. Ça, c'est l'hôpital public. En ce qui concerne les cliniques, bah, c'est une présence qui peut être totalement nécessaire,
oui,
mais qui n'est pas obligatoire parce que le directeur de la clinique peut décider que ça n'a aucun intérêt et mettre des freins à la présence chrétienne ou présence religieuse de manière générale à l'intérieur de ces hôpitaux, de ces cliniques, pardon.
Donc, de ce que je comprends, c'est vraiment, on va dire, à la direction de cliniques ou des hôpitaux de choisir. On va dire qu'une personne de la pastorale de la santé d'un diocèse ne peut pas aller dans une clinique et dire, bah voilà, j'ai envie de venir.
Ah non.
C'est pas aussi simple que ça. Voilà, tout à fait.
C'est pas non,
mais c'est bien, ça permet de comprendre, hein, Jean-Pascal Choury.
Après, on se rend compte très, très régulièrement que même à l'hôpital, où il y a dans la quasi-majorité des hôpitaux une présence d'un service de pastoral de santé, donc d'aumônerie, beaucoup de patients ne le savent pas, qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens, et donc ils ne font pas appel. Et puis, bah, c'est au débotté d'une rencontre, parce qu'on a ouvert une porte, qu'on dit « Oh, mais tiens, il y a un service d'aumônerie qui existe
ouais. ».
Et là, beaucoup de patients qui pourraient en avoir besoin, eh ben on ne les rencontre pas obligatoirement. D'abord parce qu'on est souvent en nombre insuffisant, que ce soit aumônier ou bénévole, mais simplement parce que les gens ne savent pas l'existence de ces services d'aumônerie. Et donc, des patients peuvent ne pas bénéficier de cette présence d'église auprès d'eux.
Oui. Aude Maumal, dans le cas d'Evelyne, elle aurait très bien pu faire la demande, d'après vous, à la direction de la clinique où était son époux, en demandant l'intervention, alors c'est un grand terme l'intervention, mais en tout cas l'appel d'une personne, d'une pastorale de la santé.
La présence d'une personne.
Oui, voilà.
Tout à fait, oui. Oui, elle aurait tout à fait pu demander. Normalement, c'est inscrit dans le livret d'accueil. Il est inscrit que la personne peut faire appel à quelqu'un de la pastorale de la santé ou quelqu'un, plutôt une personne de son culte, d'ailleurs, on dira,
ah,
parce
oui.
que quelquefois, les cliniques peuvent faire appel aussi aux paroisses environnantes. Mais je rejoins ce que dit Jean-Pascal, en clinique privée, c'est plus compliqué qu'en hôpital. Voilà, parce que ce n'est pas obligatoire. Et en fait, c'est là où il est très important que nous, pastorales de la santé, les personnes qui sont sur le terrain, ou même au niveau du diocèse, qu'on maintienne de bonnes relations avec toute l'administration et toutes les responsables et directeurs de cliniques et d'hôpitaux. C'est en s'expliquant, en parlant simplement, en écoutant leurs freins, parce que quelquefois, ils ont une assez mauvaise image de ce que l'on peut être, et simplement en leur disant ben, « nous sommes là pour écouter la personne, pas pour les évangéliser, pas pour faire du prosélytisme, juste pour être là auprès des malades ». Et à ce moment-là, le dialogue peut s'ouvrir. Mais vous voyez bien quel temps cela demande de notre part, et ce que disait Jean-Pascal, on est quand même, ben, parfois on manque d'effectifs, quoi. En hôpital, ce qui se passe en hôpital public, donc effectivement, c'est ouais. un service d'hôpital.
Voilà, service d'hôpital obligatoire dans tous les hôpitaux.
Oui. Voilà, maintenant, l'hôpital, comme vous le savez, a enfin, quelques petits problèmes d'argent.
C'est le moins qu'on puisse
et
dire.
On voit, nous, souvent, les lignes budgétaires, si vous voulez, se réduire. Ce qui veut dire que nous faisons appel de plus en plus à des bénévoles, y compris dans les responsables d'hôpitaux, et c'est pas toujours facile à. Voilà,
ouais.
Il faut que les personnes puissent vivre aussi de cela, voilà.
J'aimerais.
Mais c'est dans le livret d'accueil de l'hôpital. Je voudrais rajouter un point.
Oui.
Aussi. En fait, normalement, nous ne pouvons avoir accès aux malades, aux chambres des malades, qu'à leur demande. Le porte-à-porte est maintenant interdit, je dirais.
Oui.
Donc, il faut... Oui.
Non,
oui.
Ça avait coupé, mais c'est bon,
et
on vous entend.
Et donc, il faut... Voilà, excusez-moi, oui, je suis en pleine cambrousse, là, donc c'est un peu compliqué. Oui, normalement, le porte-à-porte est interdit. Nous devons être présents pour répondre à une demande. Et souvent, ce qui est important de faire, c'est justement par le cadre santé, par le personnel soignant, se faire repérer, se faire connaître et ainsi Eux peuvent venir, ah, j'ai vu telle personne là, elle a un chapelet sur sa table de nuit, peut-être, sera-t-elle ouverte à votre présence, voilà. Mais ça demande beaucoup d'intuition, beaucoup de savoir-faire, si vous voulez, et de ne pas s'imposer. Nous n'avons pas le droit de rentrer dans les chambres si jamais il n'y a pas de vraie
Ouais.
demande, quoi, voilà.
Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour.
Vous êtes dans le Cantal.
Je suis dans le Cantal, diocèse de Saint-Flour.
Oui.
Alors là, justement, nous, on doit faire partie des exceptions, mais dans le diocèse de Saint-Flour, donc on a c'est des petits hôpitaux, hein, dans tous les petits hôpitaux, on a le droit de visiter et de visiter, de rentrer dans toutes les chambres. Donc, pour se présenter, soit on se présente, les équipes, et c'est ça, c'est grâce au travail des équipes, hein, qui étaient en place, parce que moi je suis responsable, mais j'ai eu la chance d'avoir des équipes extraordinaires qui ont su justement se faire connaître et reconnaître. Et donc on a le droit de visiter tout le monde. Soit on nous accepte, soit c'est un simple bonjour, soit on partage un moment sans forcément parler de religion. Si la personne est croyante, c'est là où on peut intervenir au niveau de notre culte. Mais c'est une chance, et ça, c'est grâce au travail et aux bénévoles qui sont en place sur notre secteur. Et voilà, je voulais témoigner pour elle et pour dire que vraiment tous ces bénévoles qui interviennent, c'est des gens extraordinaires et voilà, c'était juste pour leur rendre hommage.
Hommage, c'est très important. Merci de le faire, Marie-Hélène. J'avais prévu qu'on en parle, on va le faire. Merci pour votre appel. On accueillera Thérèse dans un instant. Jean-Pascal Chaury, et le fonctionnement d'une pastorale de la santé. Diffère-t-il d'un diocèse à un autre?
Sûrement, de par la richesse de chacun des diocèses concernés. Moi, je suis sur Nice, donc c'est quand même un diocèse qui fait partie des grandes villes de France. Donc, ne serait-ce que la réalité de ce que nous vivons, c'est 180 à peu près bénévoles qui interagissent dans les cliniques, les hôpitaux, les maisons de retraite. C'est 17 aumôniers. Donc, voilà. Il y a quand même une réalité sur laquelle il y a 2 jours, nous étions en retraite des aumôniers. Et voilà, parce que il est important aussi d'écouter les patients, mais aussi de se ressourcer. Et ces moments importants de convivialité entre nous, mais aussi de mise en présence du Seigneur à travers un prêtre qui est venu ou 2 prêtres qui sont venus nous ressourcer, sont des éléments importants. Après, sur des diocèses plus petits, c'est vrai que moi qui ai la chance de travailler aussi en province, on se rend compte que les réalités sont différentes entre Marseille et Digne, c'est pas la même réalité. Et donc, il y a moins de bénévoles, il y a moins d'aumôniers, et parfois il y a des difficultés rencontrées qui sont inhérentes à la situation du diocèse.
Sur les bénévoles qui composent une pastorale de la santé, Jean-Pascal Chaury, tous sont formés?
Ah oui. Depuis des années d'ailleurs, on a mis en place une formation initiale qui est là pour se rendre compte que, voilà, on peut être appelé, on peut avoir envie d'aller vers les malades, mais par contre, il est nécessaire de se former, ne serait-ce que de comprendre ce qu'est la laïcité en France, parce que ce soit nos hommes politiques ou tout un chacun, on n'a que des a priori là-dessus. Et donc, il est important de redire ce que la loi nous autorise et ce que la loi nous interdit. Parce que, et en particulier à l'hôpital. Parce que à l'hôpital, nous avons affaire à des personnes fragiles. Et c'est bien pour ça que le prosélytisme est complètement interdit, que ce soit de la part des soignants, mais même de la part des services d'aumônerie, bénévoles et aumôniers confondu. Le patient fragile peut être facilement influençable et donc il est important de répondre à sa demande, mais en aucun cas d'essayer de l'influencer pour l'amener là où nous devons aller. Et c'est bien pour la raison pour laquelle une formation est nécessaire. L'écoute aussi est un des éléments essentiels de notre travail, on le disait tout à l'heure. Et cette écoute, qu'est-ce qu'elle est compliquée pour tout un chacun? Parce qu'il faut qu'on travaille ça et on fait appel pour ce qui nous concerne à Nice à deux personnes qui sont des psychologues, qui nous aident à travailler sur notre écoute. Et l'an prochain, on va faire une journée complète, justement pour, malgré qu'on ait parfois des années d'exercice du bénévolat en pastoral de santé, il est nécessaire de se remettre dans une situation où comment je peux progresser sur ma capacité d'écoute. Et puis après, il y a l'écoute, mais il y a aussi une réponse chrétienne. Et donc, il est important de savoir quelles sont les réponses sacramentelles. C'est quoi un sacrement des malades? C'est quoi une confession? C'est quoi... voilà, tous ces éléments-là qui peuvent être un service que nous apportons au niveau des malades. Donc, importance de cette formation nécessaire. Formation initiale, mais aussi formation continue, puisque nous, sur le diocèse de Nice, nous avons deux ou trois journées chaque année où nous réunissons l'ensemble des bénévoles et des aumôniers pour se ressourcer en faisant intervenir des gens de divers horizons pour progresser, parce que bah, on est en permanence avec l'envie de répondre au mieux aux attentes de l'Église qui nous envoie en mission, mais aussi aux attentes des patients. Mmh. Et la situation des hôpitaux aujourd'hui fait que les patients sont différents. Par exemple, si la loi était passée sur
la fin de vie,
sur la fin de vie, comment on va accompagner quelqu'un qui est en demande d'euthanasie? Parce qu'aujourd'hui, la réponse, elle est assez claire, puisque la loi ne nous y autorise pas. Par contre, si demain la loi est autorisée, je pense qu'il y a tout un travail de fond au niveau des bénévoles pour les amener à réfléchir de comment je peux au mieux accompagner un malade dans cette demande-là qui existe, sans pour cela lui dire mes convictions sont hostiles, donc je ne peux pas vous écouter. Ce n'est pas tout à fait la démarche qu'on attend du bénévole.
Aude Maumal, on entendait Marie-Hélène rendre hommage aux bénévoles des pastorales de la santé. Tous formés, on l'a dit avec Jean-Pascal Choury, par qui, par quoi, qui forme? Est-ce que ce sont finalement des personnes qui font déjà partie d'une pastorale de la santé qui vont former les futurs bénévoles?
Alors, ça dépend des types de formation. Je voudrais mettre en avant déjà, parce que ce que dit Jean-Pascal au niveau au sujet de la laïcité.
Oui.
Nous avons, l'hôpital public impose à nos responsables d'aumônerie de suivre ce que nous appelons un DU laïcité, c'est-à-dire une formation sur un an, justement, pour avoir les principales règles que l'on doit suivre quand on est au sein d'un hôpital public, parce que nous ne sommes pas chez nous, nous sommes en hôpital. Donc il y a cette formation obligatoire pour les responsables d'aumônerie qui sont là depuis 2017. Alors, qui forme? Ça dépend un petit peu des sujets. Sur l'écoute, par exemple, pour moi, ce sont des psychologues, ce sont des personnes qui sont des professionnels de la formation à l'écoute. Maintenant, nous avons aussi, nous organisons des formations sur qu'est-ce que la connaissance de la parole peut vous apporter dans notre mission de visiteur. Donc là, ce sont des personnes qui sont à la fois souvent des théologiens et aussi des visiteurs en hôpital, parce qu'ils ont un regard particulier sur ce que la parole peut nous apporter quand nous visitons un malade. Donc vous voyez, c'est un peu différent. Là, cette année, on organise des micro-conférences sur la souffrance. Là, c'est un prêtre, un autre, c'est quelqu'un qui intervient en aumônerie, le troisième, c'est un médecin, deux médecins catholiques qui nous apportent leur regard sur la souffrance. Donc, vous voyez, ça dépend un petit peu des... sur la pratique sacramentelle, c'est évidemment un religieux qui nous apporte... Enfin, je dis évidemment, pas forcément, excusez-moi, ça peut être aussi un laïc qui est formé à aux sacramentaux. Et nous avons aussi des accompagnements en fin de vie, mais ça, avant ou après la loi d'ailleurs, comment accompagner quelqu'un en service palliatif, en soins palliatifs. Donc là, nous avons plutôt des médecins qui sont en soins palliatifs. Et nous préparons quelque chose, là, pour reprendre ce que disait Jean-Pascal, nous essayons de préparer quelque chose pour accompagner aussi les visiteurs. Parce que je pense que accompagner quelqu'un qui demande l'euthanasie, il me semble que ça n'est pas aussi simple. C'est que ça touche quelque chose de très intime, y compris chez le visiteur. Donc, comment faire pour être auprès d'eux?
Voilà. Bonne question.
Donc, voilà.
Oui. Thérèse, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Thérèse, vous êtes où en France?
À Colmar.
Colmar, parfait, on vous écoute, allez-y.
Voilà, là je connais par exemple un médecin qui est autour de Colmar, un petit peu loin, de l'autre côté de la ville, et j'entends Pasteur de la Santé sur votre émission, sur votre chaîne. Suis-je obligée de subir le service évangélique des malades dépendant de ma paroisse, ou puis-je appeler ce médecin que je connais déjà d'avance?
C'est une bonne question, Thérèse. J'espère que vous l'avez compris, Jean-Pascal Chory.
Oui, ben je pense que de toute façon, si cette personne est chez elle, c'est-à-dire à domicile, on accueille la personne que l'on souhaite. La paroisse, à travers le curé, a peut-être mis en place un service évangélique des malades qui est là pour répondre à des sollicitations de la part des malades, mais en aucun cas pour se substituer à qui que soit d'autre. C'est-à-dire que si cette personne souhaite que ce soit tel médecin qui est peut-être éloigné, mais qui serait la personne la plus à même d'être à son écoute et de faire un accompagnement, il n'y a aucune raison de lui imposer une personne par rapport à un autre qui serait du service évangélique des malades. Je pense qu'on est là pour répondre à des attentes et écouter le malade. Et donc, la meilleure personne, c'est celle que le patient ou le malade choisit.
Le plus simple, c'est de se rapprocher de son diocèse pour retrouver toutes ces informations.
Oui, oui. Ouais. Bien sûr. Bah, alors le diocèse, je pense que suivant les diocèses, il y a des sites internet, etc., qui ont été mis en place pour essayer d'avoir les coordonnées, les téléphones des personnes pouvant répondre à cette demande. Mais là, on a un énorme travail à faire parce que nos chrétiens, y compris les pratiquants réguliers, ne sont pas toujours informés de la présence de l'Église à travers les cliniques, les hôpitaux, voire même à domicile à travers le service évangélique des malades. Donc, plus on diffusera de l'information, plus on se fera connaître, et merci pour cette émission, ça nous permettra d'avoir ces accompagnements qui sont si utiles et nécessaires aux patients. Mais il y a encore un gros travail de communication à faire concernant, je pense, les trois quarts des diocèses.
Bah, on est ravis de vous accueillir ce matin, tous les deux, Jean-Pascal Chory et Aude Momal. Vous confirmez, Aude, vous n'êtes pas très connue, pas assez en tout cas.
Pas assez, en fait. Oui, nous ne sommes pas assez connus et je pense que les personnes en hôpital, en situation de faiblesse, oui, effectivement, n'ont pas toujours le réflexe d'appeler l'aumônerie, y compris des prêtres d'ailleurs, qui sont soignés en hôpital et n'ont pas toujours le réflexe que d'appeler l'aumônerie. Je crois aussi qu'il y a une certaine peur, peut-être. Je vais vous dire, mon papa est décédé en octobre dernier et j'ai fait venir le prêtre pour le sacrement, pour qu'il puisse recevoir le sacrement des malades. Et tout de suite, l'aide-soignant m'a dit, mais non, pas le prêtre. C'est trop tôt. Parce que papa n'était pas encore en état de... Enfin, voilà, il est mort 3 semaines après. Donc, si vous voulez, ce n'était pas immédiat. Il y a cette peur aussi, parfois, que de dire, quand on appelle l'aumônerie, ça veut dire que, quelque part, ça va nous faire mourir. Et au contraire, cette présence accompagne, écoute, juste est là pour apaiser la personne et la faire sentir, si besoin est, en présence, que ce soit dit ou pas, en tout cas en présence du Christ, voilà. Mais que ce soit dit ou pas, parce que on n'a pas de projet sur la personne, hein, c'est ça la pure écoute. Et donc, voilà, on n'est pas assez connu, il y a aussi une certaine peur, effectivement.
Il est 10h28, on va marquer une petite pause dans Je pense donc j'agis. On va se retrouver dans un instant avec vous deux, Aude Momal et Jean-Pascal Chory, toujours pour découvrir le rôle d'une pastorale de la santé. Vous avez bien sûr la parole, tout comme Evelyne, Marie-Hélène et Thérèse, au 04 72 38 20 23 pour nous dire si vous avez déjà été en lien avec une pastorale de la santé dans votre diocèse, si vous faites vous-même partie d'une pastorale. Venez nous dire un peu voilà ce que ça vous apporte, comment vous avez été appelé. 04 72 38 20 23 pour témoigner, ou par mail à l'adresse direct@rcf.fr. À tout de suite.
Je pense donc j'agis, avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
10h30 dans Je pense donc j'agis, vos réactions autour de la pastorale de la santé au 04 72 38 20 23.
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter, chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
Y'a pas de recette pour supporter les épreuves, remonter le cours des fleuves quand les tragédies pleuvent. Y'a pas de recette pour encaisser les drames, franchir les mers à la rame quand l'horreur te fait du charme. Y'a pas de recette, toi t'en avais pas non plus, personne t'avait prévenu, tu t'es battu comme t'as pu. Y'a pas de recette quand l'enfer te serre la main, abandonner cet humain, l'avenir c'est loin, mais tu t'es mise à chanter, même pas par choix, comme à chaque chute, à chaque fois ça s'est imposé à toi. Chanter comme un enfant surpris, comme un instinct de survie, comme un instant de furie. Chanter pour accepter, exprimer, résister, avancer, progresser, exister, chanter comme une résilience, une délivrance, chanter comme une évidence.
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter, chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
À quel moment tu comprends que c'est ton truc, que la musique revient pour te relever de chaque chute? À quel moment tu sais quelle est ta boussole, quand la vie te punit, la musique te console? À quel moment ce piano a chanté, ses accords t'ont hanté, ont choyé ta santé? À quel moment il est ta respiration, et à quel moment on en fait une chanson?
Si je me sens comme une enfant, j'ai déjà eu plusieurs vies. Je peux regarder devant en chantant ce qu'on m'a pris. Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter, chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
Derrière le brouillard, très beau duo entre Grand Corps Malade et la chanteuse Louane pour vous accompagner en ce lundi matin sur RCF.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et nous sommes toujours avec nos deux invités jusqu'à 11h. Aude Maumal, je rappelle que vous êtes délégué de l'archevêque pour la pastorale de la santé du diocèse de Paris, et Jean-Pascal Choury, délégué diocésain pour la pastorale de la santé et du handicap du diocèse de Nice. Bonjour Marie-Thérèse.
Voilà, bonjour. Mmh. Écoutez, je suis très heureuse que vous passiez cette émission,
oui,
sur l'aumônerie, parce que moi je fais partie de l'aumônerie de Lille, pour un des hôpitaux de Lille,
oui, l'homme,
depuis de très longues années, et c'est une grande source de joie que de visiter les patients. Hein, si vous voulez, je me présente comme une visite d'amitié. Donc, je respecte la personne dans le sens où je vois de suite si l'accueil est favorable. Hein, il est toujours favorable, parce que même si nous ne parlons pas, nous parlons d'abord de la santé du patient, bien sûr.
Oui.
Et ensuite, les choses se font naturellement. Se font naturellement, et bien souvent, j'ai un accueil, et voire même pour certains, une joie de prier ensemble. Mmh.
L'aumônerie, donc, de votre diocèse, qui fait partie de la pastorale de la santé, c'est ça, Marie-Thérèse ?
Tout Tout à fait. Donc, l'hôpital, c'est l'hôpital, y a l'hôpital Saint-Philibert, l'hôpital Saint-Vincent, ici, sur l'île, qui sont, font partie de la faculté catholique de Lille.
Oui.
Voilà. Hein, et le patient a le choix. S'il veut faire passer un prêtre de sa connaissance, eh bien, il peut le faire.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Marie-Thérèse, d'avoir apporté ce témoignage. Aude Maumal, ça rejoint vraiment hein, tout ce que vous avez dit depuis le début de cette émission, tous les témoignages et également, voilà, on entend à quel point c'est quelque chose qui est très important dans la vie de Marie-Thérèse.
Ah oui, c'est très important. Je voudrais juste revenir sur quelque chose que j'ai dit auparavant et qui ne me semble pas tout à fait juste. Quand on entre dans la chambre d'un malade, on dit qu'on est bien membre de l'aumônerie catholique.
Oui.
C'est très important. Il n'y a pas de face cachée, il n'y a pas de tromperie, si vous voulez. On arrive, on est membre de l'aumônerie catholique. Souhaitez-vous cette petite visite d'amitié ou notre présence ? Mais c'est important, il n'y a pas tromperie sur la marchandise, c'est très important.
Ouais.
Oui. Chacun de nos visiteurs, alors j'appelle visiteurs qu'ils soient rémunérés ou bénévoles, pour eux, c'est tellement fort. Et je reprendrai ce qu'a dit une de vos auditrices tout à l'heure. Bravo, chapeau et merci. Surtout merci parce que ils y passent tellement de temps qu'ils vont au-delà même de leur engagement, du temps qu'ils voulaient passer. Ils ne mesurent pas leur temps, si vous voulez. Voilà, leur temps, leur présence, leur écoute. Et je pense que il y a cet échange profond. Le malade, la personne qu'on voit, le soignant ou la famille apporte autant, sinon plus que ce que nous leur apportons. Il y a vraiment un tel échange. C'est fabuleux. Moi, quand je les entends parler, ils ont c'est trop beau, quoi. C'est vraiment un élément. Et ce que j'essaie au maximum, c'est que Paris, c'est un gros diocèse, donc nous en avons à peu près. Moi, je dirais que nous en avons à peu près 300 à 350 au total. 40 aumôniers sur 35 aumôneries. J'essaie qu'ils échangent entre eux justement pour partager cette joie. Joie profonde, hein. C'est vraiment quelque chose qui, pour beaucoup, les anime mais profondément. Et je pense qu'ils, leur place, cet appel, ça fait partie d'eux-mêmes. Et voilà, enfin, je ne sais pas très bien comment dire encore merci, parce que c'est quelque chose de très beau ce qu'ils font. Et le public en face, la personne qu'ils vont voir, n'est pas toujours simple. Je parlais tout à l'heure des formations avec des personnes. Nous sommes aussi présents, nous, en milieu psychiatrique. Et donc, on a monté des formations. Qu'est-ce que c'est que l'écoute des personnes en difficulté psychique ? Et là, ce n'est pas simple non plus. Et ça, c'est vrai au niveau des hôpitaux, mais aussi pour les gens d'accueil en paroisse.
Oui, tout à fait.
Voilà. Ouais. Donc, vous voyez, la pastorale de la santé,
c'est très vaste.
C'est large, quoi. Ouais. C'est très vaste, oui, tout à fait.
Ouais.
Tout à fait.
Beaucoup d'appels ce matin. On va prendre le temps de tous et toutes vous écouter. Sophie, non, Olympia, bonjour.
Bonjour.
Allez-y, c'est à vous.
Alors, c'est un témoignage indirect, une aventure qui est arrivée à un de mes amis qui était hospitalisé en hôpital public en oncologie. Il était donc dans sa chambre, puis une personne est arrivée sans se présenter. Je précise que mon ami n'avait rien demandé, qu'ils sont d'une famille très chrétienne, qu'ils étaient déjà suivis par la pastorale de la santé de la paroisse. Et la personne a commencé à lui parler religion, puis remarquant sur la table de nuit du malade une statuette de la Vierge Marie, cette personne a commencé à lui dire « Ah, comment vous adorez la Vierge Marie, mais tout ça, c'est pas la vraie religion. » Et la personne a essayé de l'endoctriner et en posant des questions habilement, mon ami a pu voir que cette personne était un évangélique qui n'était pas répertorié dans les autorisations de l'hôpital et qui était intervenu sans que personne lui demande rien et surtout en avançant masqué. Il avait trouvé le procédé assez désagréable. Il l'a signalé à la direction de l'hôpital qui n'a pas jugé utile de prendre des mesures en disant « Oui, ce sont des choses qui arrivent de temps en temps. » Et voilà. Le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours à qui on a affaire. Moi-même, sans faire partie de la pastorale de la santé, je visite des malades quand je peux, mais des malades que je connais, et je n'essaye pas, quelle que soit leur croyance, de les influencer. Je suis là pour une présence amicale, réconfortante, j'espère, Mais c'est tout de même désagréable qu'on puisse être sollicité par des gens qu'on n'a pas demandé et qui n'annoncent pas clairement la couleur et qui se permettent aussi de critiquer les croyances des malades.
Et voilà. C'est très pertinent d'en parler. Merci beaucoup, Olympia, de pointer ça du doigt. Jean-Pascal Choury, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce qu'il y a pu avoir des dérives? Est-ce que les hôpitaux arrivent à mieux maîtriser peut-être les entrées et les sorties?
On l'espère. C'est la raison pour laquelle dans chaque diocèse et dans les grands CHU, on a un groupe qui s'appelle le groupe interreligieux et qui essaie de travailler la main dans la main ensemble, c'est-à-dire que l'aumônier catholique travaille avec la personne responsable protestante, musulman, juif, bouddhiste, etc., de façon à ce que dans toutes les religions et les cultes présents auprès du CHU, toutes ces dérives n'existent plus. Et ce que disait Aude est très vrai. C'est inacceptable aujourd'hui de rentrer dans une chambre de malade sans dire qui nous sommes. Nous sommes Jean-Pascal, aumônier de l'hôpital en responsabilité catholique. Voilà. Je suis évangélique. S'il y a des personnes de confession protestante qui se présentent auprès des malades, ils disent qui ils sont. Parce que l'ambiguïté crée toujours un problème. Et si en plus, derrière, il y a des actes de prosélytisme disant la Vierge Marie, ça sert à rien, etc., mais de quel droit? Et donc, ces attitudes-là sont inacceptables. Et c'est bien pour ça que souvent, dans les plus grosses structures hospitalières, comme le CHU, il y a un groupe interreligieux qui se réunit régulièrement pour essayer de développer une présence religieuse auprès des malades, mais surtout pour empêcher toutes ces dérives-là qui sont, je l'ai déjà dit, inacceptables.
Oui, tout à fait. Donc pas de prosélytisme, c'est ce qu'on entend aussi dans ce que vous dites.
Ah bah, pas de prosélytisme de notre part,
oui.
Mais même pas de prosélytisme d'un malade vis-à-vis d'un autre. C'est-à-dire que la loi interdit tout prosélytisme à l'intérieur d'un hôpital. Et un malade essaierait de convaincre l'autre de ses convictions, que ce soit religieuse ou anti-religieuse, il peut être mis à la porte de l'hôpital. La loi est très précise là-dessus.
Oui. Allez, on continue parce qu'on a Sophie qui nous a rejoint. Sophie, vous êtes... Ben, je n'arrive plus à trouver. Ben, je ne sais pas. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Vous êtes où?
Alors, je suis à Paris.
Paris.
J'ai été pendant 5 ans responsable de l'aumônerie catholique de l'hôpital Saint-Louis.
Oui.
Donc, un hôpital avec des pathologies très lourdes, parce que c'est surtout de la cancérologie. Et alors, ce que je voulais surtout souligner, c'est que pendant 5 ans, lors de ma mission, parce que c'est vrai qu'on est envoyé en mission,
oui.
J'ai de toutes mes forces essayé de créer un lien très fort avec la direction de l'hôpital. À partir du moment où on est reconnu par l'hôpital, que l'hôpital voit les actions qu'on peut mener, tout est apaisé. Et dans ce cadre-là, avec la direction de l'hôpital, parce que la référente des cultes était une personne très à l'écoute, on a monté comme une conférence, je dirais, sur la spiritualité dans le parcours de soins. Au même titre que les infirmières soignent les corps, nous, on a montré qu'on pouvait soigner les âmes.
Ah oui.
Et en fait, ce partenariat a été essentiel. Et c'est vrai qu'à l'hôpital, petit à petit, même les soignantes qui n'étaient pas de catholiques ont compris l'importance que revêtait notre mission et nous faisaient appel à nous très spontanément parce qu'elles avaient mon numéro portable en disant il y a peut-être une personne qui serait en demande, mais elle ne vous connaît pas et tout. Et du coup, ce lien a été vraiment essentiel pour nous faire connaître et puis surtout pour répondre aux demandes de gens qui ne nous connaissent pas forcément et qui étaient très heureux de pouvoir nous rencontrer. Donc ça, c'est vraiment... Je trouve qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'en tant que catholique, on n'ait pas peur. Il y a le docteur Galichon, qui est un médecin catholique et qui fait partie, en fait, il est président, je crois, des médecins catholiques de France. Enfin, il n'y est peut-être plus, mais il a été. Avait fait une réflexion que j'ai trouvée très belle. Il a dit, il ne faut pas avoir peur de dire ce que vous êtes, parce que la spiritualité est à fleur de brancard. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui attendent de nous quelque chose. Ils ne le savent pas, ils ne connaissent pas. Et ça, c'est vraiment, je trouve, quelque chose d'important à souligner.
Merci beaucoup, Sophie, d'avoir témoigné dans Je pense, donc j'agis. J'ai noté ce que vous avez dit. Voilà, les infirmières et médecins soignent les corps. Nous, on soigne les âmes. Aude Maumal, est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Alors, tout d'abord, merci Sophie, parce que je la connais bien. On
Ah.
a travaillé ensemble. Ah oui, j'étais quelque part, ça, voilà, je suis au niveau du diocèse, elle est
Oui.
au niveau de l'hôpital et responsable d'une aumônerie. Alors, je suis d'accord et pas complètement. Oui, nous soignons les âmes, mais nous soignons aussi l'unité corps et âme. Mais ça, je pense que Sophie, tu seras d'accord sur ce point-là. Je pense que notre religion ne s'adresse pas qu'à l'âme. Elle s'adresse à l'unité de la personne, comment corps, âme, esprit, une personne fait un. Et d'ailleurs, quand on agit sur le corps, ça a un lien, enfin, ça a un impact sur l'âme et réciproquement. Parce qu'on s'occupe de l'âme, le corps peut aller mieux aussi. Et donc voilà. Mais après, Sophie, merci parce que merci d'avoir en tout cas mis ce point sur la table. Mais c'est oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit. En rajoutant ce petit point-là, corps et âme, corps, esprit et âme ne font qu'un chez l'homme dans notre religion, en tout cas, il me semble. Voilà.
Jean-Pascal Choury, voilà, on va peut-être pas jouer non plus sur les mots, soigner les corps, soigner les âmes. En tout cas, ce qu'on entend dans tout ce que vous avez pu dire depuis le début de cette émission, c'est à quel point cette pastorale de la santé permettait une présence forte, spirituelle également auprès des personnes touchées par la maladie, la fin de vie, le grand âge, le handicap, la santé mentale. Et puis également, alors ça, on en a moins parlé, auprès des professionnels de la santé, Jean-Pascal
Ah,
Choury.
oui. Je pense qu'un travail important de la part des aumôniers, en particulier des aumôniers, mais les bénévoles de la même manière, c'est ce travail avec les soignants. Parce que c'est eux qui nous ouvrent les portes, c'est eux qui sont capables de nous dire, allez plutôt chez tel patient, il en a besoin, soit parce que il a aucune visite, soit parce que ils ont ressenti un besoin spirituel au sens large, soit parce qu'ils ont identifié que c'était un patient catholique et qu'il aurait plaisir à recevoir la visite d'un bénévole ou d'un aumônier. Ce travail vis-à-vis des soignants, l'aumônier tout à l'heure le disait, il est important aussi qu'on soit présent vis-à-vis des directions, vis-à-vis de tout ce qui fait le fonctionnement de l'hôpital. Et je pense par exemple à tous ces comités d'éthique. Nous avons la chance d'avoir plus plusieurs aumôniers qui participent dans les hôpitaux où ils travaillent, au niveau du comité d'éthique, au niveau des espaces éthiques où les réflexions, où les formations se font. Il est important d'être présent dans les instituts de formation des soignants, les IFSI, pour dire aussi c'est quoi la spiritualité, c'est quoi le rôle de l'aumônerie, c'est quoi l'approche de la mort, et d'avoir cette présence-là. Donc les soignants, c'est vraiment une partie importante du travail que l'on fait. On demande toujours aux bénévoles, avant de rentrer dans un service, d'aller voir le cadre de santé, qui est souvent la pièce maîtresse du service,
Oui.
pour dire, voilà, aujourd'hui je viens, est-ce qu'il y a des patients qui sont à visiter en priorité, ou est-ce qu'il y a des patients pour lesquels vous nous dites surtout n'allez pas les voir parce que problème d'hygiène, y compris le patient qu'on a peut-être vu la semaine dernière, mais aujourd'hui il est infecté, il serait bon de ne pas diffuser le virus ou la bactérie qui est présente dans la chambre. Donc ce travail, il est essentiel à faire vis-à-vis des soignants, et cette présence au niveau des instances, souvent on demande aux aumôniers, dans les grosses unités comme le CHU et les hôpitaux publics, de faire chaque année un bilan de l'action qui est la leur au niveau d'une instance qui s'appelle la commission des usagers. Depuis la loi Kouchner, le patient est vraiment au centre du dispositif de soins, et donc il y a des commissions des usagers pour redire un peu ce que
Oui.
les usagers, c'est-à-dire les patients, pensent, et donc on se doit nous aussi d'être présents au niveau de ces commissions-là pour dire notre action, voilà
Là,
ce que l'on fait.
vous parlez de la loi Kouchner de 2002 sur le consentement et le refus de soins?
Oui, tout à fait. C'est la loi Kouchner qui a remis en exergue la place du malade au centre du dispositif de soins.
Et c'est venu
Et
changer
donc,
quelque chose, enfin dans la balance en tout cas.
ah, complètement, complètement. Complètement, c'est le patient qui décide, et c'est pour ça que il est important d'être en lien avec ses soignants, parce que c'est eux qui, au quotidien, minute après minute, sont en contact avec avec les malades et qui peuvent identifier. Alors, tout le travail, et c'est ce qu'elle disait tout à l'heure avec ces formations pour les soignants, c'est quoi la spiritualité? C'est quoi les besoins spirituels des patients? Et là, on a un travail énorme à faire et à remettre à l'ouvrage en permanence parce que il y a tellement de changements de personnel, mais de redire quelle est l'importance de prendre en compte ces besoins spirituels. Et c'est ce que disait Aude tout à l'heure. La personne humaine, elle n'est pas qu'un corps, et c'est souvent un peu la dérive de cette médecine très technique, c'est-à-dire que je soigne le corps, et puis le reste, je l'oublie un petit peu. Or, c'est une unité. Il y a des besoins spirituels, psychologiques, sociaux et spirituels de ce patient-là. Il faut prendre en compte l'homme dans toutes ses dimensions.
Aude Maumal, pour compléter peut-être.
Non, parce que je pense que Jean-Pascal
a tout dit.
Non, au-delà de ça, oui, on vous parliez des soignants. Après, il y a aussi, on en parlera peut-être plus tard.
On n'aura peut-être pas le temps, par contre. Alors, allez-y.
Avec tout ce qui est administration, c'est-à-dire que c'est aussi très important que d'avoir des. On l'a dit en début d'émission, que d'avoir des relations avec les directions des hôpitaux. Alors eux qui ne sont pas des soignants, mais parce que effectivement, ôter, ce que disait Sophie, c'est-à-dire ôter cette peur et simplement dire que nous sommes là pour le bien-être des patients. Et là, la direction de l'hôpital, elle comprend très très bien ça. Donc je suis tout à fait dans la logique de ce que disait Jean-Pascal. Il me semble qu'il y a aussi un autre, chez les soignants, il y a donc le cadre santé qui est important, la commission des usagers, et il y a aussi simplement les aides-soignants. C'est souvent les personnes qui sont au plus près des personnes malades. Et donc voilà, cette présence, cette juste être là, enfin, oui c'est ça, cette présence auprès d'eux est importante. Après il faut faire attention, les soignants, normalement sur leur temps de travail, n'ont pas le droit que de fréquenter la chapelle par exemple. Donc à Paris il y a beaucoup d'hôpitaux qui ont des chapelles. Mais en revanche, ils ont tout à fait le droit de venir nous, hors temps de travail, de venir nous voir, tout à fait. Et là, notre présence auprès d'eux, je crois, alors moi, je n'étais pas encore là au moment du Covid, mais je pense qu'au moment de la crise du Covid, notre présence et les personnes qui avaient de l'aumônerie qui avaient le droit d'être là ont été très, très précieuses auprès des soignants aussi, des personnels soignants.
10h52, on arrive à la toute fin de cette émission. Peut-être, allez, c'est toujours un exercice difficile, un mot. Pour résumer votre engagement au sein de la pastorale de la santé de votre diocèse ou de Maumal, un mot.
Oh, c'est compliqué ça.
C'est toujours dur.
C'est juste présence au nom du Christ auprès des plus fragiles.
Ça fait plusieurs mots, mais ça fonctionne aussi. Ça fonctionne aussi.
Merci.
Donc présence surtout au de Maumal. Et vous, Jean-Pascal Chaury?
La joie, je crois que un auditeur le disait tout à l'heure, la joie de cette présence parce que on donne des sourires à des patients et ces patients nous apportent beaucoup de joie.
Voilà.
Je crois qu'on récupère beaucoup plus de choses de ce qu'ils nous racontent, de la capacité de résilience, de la capacité de combat qu'ils ont.
Oui.
Et ça nous réjouit.
La joie.
Ouais.
Et la joie se partage sur RCF, donc ça tombe bien aussi. Joie et présence. Merci vraiment à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Jean-Pascal Chaury, délégué diocésain pour la pastorale de la santé et du handicap du diocèse de Nice. Merci à Stéphane qui vous accueille en studio ce matin. Et Aude Maumal, merci, délégué de l'archevêque pour la pastorale de la santé du diocèse de Paris. On arrive à la fin de cette émission, mais ce n'est pas totalement terminé, puisque comme tous les lundis, c'est une tradition, on va tout de suite parler de la petite enfance. Et nous parlons de la petite enfance avec l'association Mille et un mots et le soutien de la Fondation Saint-Irénée. Nous retrouvons ce matin Nathalie Encinas. Bonjour Nathalie.
Bonjour Melchior.
L'actualité nous rattrape.
Oui. Au lendemain des élections européennes, force est de constater que la petite enfance n'a pas été un sujet dans les débats et propositions des candidats. Comme dans toutes les élections d'ailleurs. Alors pourquoi encore s'en étonner? Sans doute mon optimisme a pensé que c'est un sujet primordial et peut-être qu'un jour, cela deviendra une priorité pour l'avenir.
Ah, pourtant, fin 2022, une nouvelle recommandation de la Commission européenne sur l'éducation et l'accueil de la petite enfance avait fixé des objectifs pour 2030.
Oui, Melchior, et je dois vous l'avouer, j'en ai eu connaissance que très récemment. Mais une recommandation n'a pas de caractère contraignant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il s'amorce une évolution, même si elle est lente, car on passe de la politique de l'emploi à une politique sociale et d'éducation, avec des objectifs liés au développement de l'enfant et de lutte contre les inégalités sociales. On parle de services de qualité pour les bénéficiaires et les professionnels. Car le prisme souvent choisi quand on parle de petite enfance est celui de l'emploi, même si c'est un objectif noble qui est celui de l'égalité femmes-hommes. Mais il persiste une vision différente des États membres quant à la place de la femme au niveau économique et ou de la mère dans la société. Et encore une fois, quand on parle d'éducation, on parle des enfants de plus de 3 ans, comme si les enfants de moins de 3 ans ne rentraient pas dans ce domaine. Et ce, malgré les connaissances de ces dernières décennies en sciences cognitives, en psychologie et en neurosciences, qui prouvent que la période qui va de la naissance aux 3 ans de l'enfant est une période primordiale pour son développement. De plus, M. James Heckman, spécialiste de l'économie du développement humain, qui a remporté le prix Nobel en 2000, a démontré les gains économiques générés par un investissement massif en petite enfance. Et malgré tout cela, il y a peu de considération de la petite enfance et peu d'actes en ce sens.
Et pourtant, Nathalie, un rapport vient d'être rendu à la suite de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le modèle économique des crèches et sur la qualité de l'accueil des jeunes enfants au sein de leurs établissements.
Tout à fait. Et nous ne pouvons que nous réjouir que des rapports s'intéressent à ce sujet. Mais comme je le disais tout à l'heure, peu sont suivis d'effets positifs sur le terrain. Le rapport des 1000 premiers jours fête bientôt ses 4 ans. Et dans les crèches, la situation ne s'est pas améliorée. Il y a même eu des nouvelles règles législatives qui ont été à l'encontre des conclusions de ce rapport, comme la baisse des exigences en termes de qualification du personnel auprès des enfants. Dans le rapport dont vous parliez, les recommandations, encore des recommandations, reviennent à juste titre sur des décisions prises il y a plusieurs années, pour lesquelles, à l'époque, les professionnels de petite enfance, dont je fais partie, avaient alerté sur les risques de la marchandisation et de la rentabilité en petite enfance. Nous avions alors été traités de Cassandre. Force est de constater que nous n'avions pas tort. Nous ne pouvons qu'applaudir certaines des propositions, notamment celles qui prennent en compte les besoins fondamentaux de l'enfant en exigeant du personnel qualifié, la diminution du nombre d'enfants par adulte, des groupes de petite taille, le respect du principe de référence, l'obligation de formation continue, par exemple. Depuis longtemps, la parole des professionnels de la petite enfance n'est pas entendue. Espérons que le fait que ce soit une commission, cela aura plus d'impact.
Eh bien écoutez, merci beaucoup Nathalie Ncina, c'était très important d'en parler. Je rappelle que vous faites partie de l'association Mille et un mots, notre partenaire dont nous sommes, dont vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site milleetunmots.org. Et ben voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Vous entendez le générique. Merci vraiment à toutes et tous pour vos très nombreux témoignages dans Je pense donc j'agis. Merci encore à Aude Momal et Jean-Pascal Choury qui ont participé. Merci à Pascal et à Pierre à la réalisation ce matin. Demain, on va se retrouver dans Je pense donc j'agis en compagnie d'Anne Kerléo. On va parler d'éco-anxiété. On se demandera ce qu'est précisément cette angoisse très présente aujourd'hui dans notre société et donc dans le reflet de la société que sont les médias. Ce sera à partir de 9h avec l'engagement des scouts et guides de France également sur ces questions. Vous pouvez retrouver le programme dans notre groupe Facebook. Je vous invite à rejoindre pour faire partie des plus de 2000 membres. Le groupe s'appelle, comme l'émission, Je pense donc j'agis. Rendez-vous sur Facebook. Bonne journée à tous avec RCF.